Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dieunor Excellent, maire de Villetaneuse. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Barrière, et merci pour votre invitation.
Alors, ces derniers jours, les partis de gauche ont marché à Paris pour réclamer une hausse des salaires. Même revendication chez les syndicats qui avaient appelé à une journée de mobilisation, c'était mardi. Est-ce que vous partagez cette revendication? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires pour permettre aux habitants de faire face à l'inflation?
Alors bon, ce n'est un secret pour personne. Moi, j'ai moi-même manifesté avec un de mes fils parce que c'était important pour moi de le faire et je l'ai toujours fait en plus. Et oui, bien sûr, c'est d'une évidence. C'est d'une évidence qu'on n'a pas besoin d'être ni de gauche ni syndicaliste pour considérer, oui, qu'il faut augmenter les salaires, oui, qu'il faut revaloriser les salaires et qu'il faut surtout taxer les super-profits, parce que c'est quand même indécent, inacceptable, voire même insupportable de voir qu'il y ait des hausses de dividendes dans certains groupes, alors qu'on fait un recul sur les salaires, et même dans le privé, il y a un réel recul, et encore plus dans le privé, où là, il y a de la dividende. Donc oui, augmenter les salaires de manière vraiment généralisée, ce qui a été fait plus ou moins par l'État à travers l'augmentation du point d'indice, qui nous impacte, nous, collectivités, parce que l'augmentation du point d'indice, c'est la ville qui paye, plus le personnel communal. Donc oui, il faut aller dans ce sens, et c'est une demande de bon sens et d'une évidence même.
Dieunor Excellent, quelles sont les conséquences de l'inflation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie sur les habitants de Villetaneuse? Est-ce que vous voyez, par exemple, un nouveau public réclamer une aide alimentaire, des aides financières?
Tout à fait. Moi, je peux vous dire que je me base sur un regard de terrain. Et en effet, nous, c'est déjà pour la collectivité, c'est les factures d'électricité qui sont multipliées par deux. Le budget de gaz, c'est x5. On est sur une augmentation à peu près de 20% sur le budget du papier. Après, j'ai dû mettre en place aussi des mesures de sobriété énergétique. Hein. Bon, bien sûr, j'ai rédigé une lettre aux agents pour expliquer, parce que tout le monde ne comprend pas, même si les gens, aujourd'hui, commencent à voir la réalité, parce qu'ils reçoivent aussi des factures, ils voient les provisions de charges, hein, pour celles et ceux qui sont même locataires de logements sociaux, parce que c'est du chauffage collectif pour certains bailleurs. Et donc, oui, il faut mettre en place ce seuil de chauffage aussi. On a fait ce qu'on peut faire, et on fera mieux encore. On interdit même le chauffage à certaines températures. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu qu'on se retrouve dans une situation de crise énergétique pour avoir une démarche d'éco-responsabilité. C'est dommage, mais bon, il est jamais trop tard pour bien faire. En effet, pour la population, on le constate à travers nos comités de quartier, les gens, oui, ils commencent à se dire « qu'est-ce que je fais ? Je paye ma facture d'électricité, ma facture de gaz ?» ou « je ne mange pas ». Voilà, ils sont en train de choisir entre payer leur facture ou manger. Donc par rapport à ça, ben oui, la collectivité, on essaie de se mobiliser avec le peu de moyens qu'on a, parce qu'il faut aider aussi les personnes qui ont le plus besoin. Donc j'ai prévu d'augmenter le budget de ma caisse communale d'action sociale, alors que la collectivité subit aussi de plein fouet ces augmentations de charges. Et puis on travaille avec les bailleurs pour qu'ils puissent ne pas entamer des procédures de contre les locataires qui auront des difficultés à payer les surplus. Donc voilà, on agit avec nos moyens, mais oui, on le sent, les personnes commencent à souffrir déjà sur cette difficulté liée. Et c'est des personnes qui étaient déjà en difficulté économique, on le sait. C'est des personnes qui avaient déjà du mal à payer leur loyer, qui avaient du mal à manger correctement tous les jours. Donc oui, on le sent, on l'entend, et il faut que tout le monde puisse agir à son niveau pour aider ceux qui en auront le plus besoin.
Quelle est la marge de manœuvre d'une ville comme Villetaneuse face aux fournisseurs d'énergie? Vous venez de nous dire que les factures ont été multipliées par 2 pour l'électricité, par 5 pour le gaz. Le maire de Neuilly-sur-Marne parle de racket de la part de ses fournisseurs d'énergie. Et puis le président de Seine-Saint-Denis Habitat est inquiet lui aussi de ce qui va se passer dans les logements sociaux à partir du 1er janvier.
Oui, nous, la marge, c'est quoi? On avait des contrats qui étaient bien négociés parce qu'on est affilié aussi à certains syndicats mixtes d'énergie, heureusement. Donc ça nous protège un petit peu, mais très vite, la réalité va s'imposer à tout le monde. Et la marge de manœuvre pour nous, c'est d'aller négocier, c'est d'aller essayer de dire à un moment donné, on ne pourra plus. Et puis, moi, j'en appelle à l'État. Donc, j'écris au préfet, justement, pour solliciter les services de l'État pour nous accompagner dans la gestion de cette crise. Mais nos marges de manœuvre sont simples. Même si nous, à Villetaneuse, au-delà de Villetaneuse, sur le territoire de pleine commune, on investit dans la géothermie. Voilà, à Villetaneuse, il y aura une centrale géothermique d'ici 2025. Donc, ça sera une possibilité aussi de réduire le coût d'énergie, notamment sur nos nouveaux équipements, la piscine. Je sais qu'on en parlera peut-être, la nouvelle école qu'on est en train de rénover, de réhabiliter, d'autres équipements aussi. Villetaneuse, c'est aussi l'université Sorbonne Paris Nord, 13 000 étudiants. J'ai discuté avec le président de l'université pas plus tard qu'hier, d'ailleurs il m'a appelé tout à l'heure, je vais le rappeler. Pour eux, c'est énorme. Ils ont des coûts de fonctionnement en énergie, en charge réelle, qui sont insupportables. Donc là-dessus, voilà. Aujourd'hui, c'est difficile, donc on va essayer de trouver des solutions. Et puis, il faut prévoir aussi, donc aller vers moins d'énergie fossile et aller sur des énergies renouvelables qui nous permettent vraiment de baisser ces coûts, notamment via la géothermie. Mais là, pour l'instant, oui, c'est compliqué. Donc, on aura vraiment besoin de services de l'État pour nous accompagner aussi là-dessus, quoi.
Dieunor, excellent. Quand on dirige une ville et qu'on fait face à une augmentation des tarifs de l'énergie, est-ce qu'on est tenté d'augmenter les impôts locaux? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de faire payer plus cher la cantine?
Non. Pourquoi? On ne peut pas. Je viens de vous dire que les gens réfléchissent entre se chauffer et manger. Du coup, non, au contraire, moi, ce que j'ai demandé à mes services, et puis on est en plein de période la budgétaire, on est en fin d'exécution budgétaire sur le budget 2022, on est en préparation budgétaire pour le budget 2023, et dans ma lettre de cadrage, j'ai demandé qu'on puisse ne pas porter de nouvelles actions, en tout cas à mes élus, à mes services, en revanche, d'aller aussi chercher des économies. Il ne s'agit pas de moins faire, mais c'est de mieux faire par rapport à la situation actuelle. Je considère que nous sommes le premier bouclier social pour nos concitoyens. Nous sommes dans une ville où 80% du territoire est en QPV. Et oui, ça veut dire qu'on a des populations en grande difficulté. Donc on doit aussi montrer l'exemple de faire des efforts d'économie, de gestion. Et ce sont les orientations que j'ai données tout en poursuivant nos investissements d'avenir. Le centre aquatique, on continuera à le faire parce qu'il y a un besoin, bien sûr, avec raccordé à la géothermie, donc on prévoit un coût moins important en termes de consommation d'énergie. La réhabilitation et l'extension de notre école maternelle, c'est nécessaire. On ne peut pas laisser des enfants encore dans des préfabriqués. Un certain nombre d'investissements, une maison de santé qu'on construit aussi. Donc on ne peut pas dire on va arrêter de construire la maison de santé, on ne va pas investir parce qu'il y a une crise. Au contraire, parce que vous connaissez les problématiques de désert médical sur nos territoires, en Seine-Saint-Denis et Villetaneuse encore plus. Donc on ne peut pas augmenter les impôts. En même temps, on doit faire plus d'économies de gestion, rationaliser nos dépenses de fonctionnement, tout en continuant à en investir. Vous allez me dire que c'est paradoxal, c'est pas logique. Si, ça l'est, parce que si on arrête d'aider, on arrête d'investir, ben ça sera pire. Et là, on va vers une paupérisation extrême, et que je ne souhaite pas, en tout cas pour ma ville, et encore moins pour mon territoire et aussi mon pays.
Alors, quand vous avez été élu, vous aviez promis la construction d'une nouvelle piscine. Vous venez d'en parler à l'instant. Quel est le calendrier prévu et pourquoi c'est indispensable pour les habitants de Villetaneuse?
Vous le savez, on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est pas que Paris, c'est aussi la Seine-Saint-Denis. Et vous voyez le travail que portent Stéphane Troussel, Mathieu Hanotin. Et on ne peut pas accepter d'accueillir les JO, d'accueillir le monde et continuer à voir nos enfants se noyer parce qu'ils ne savent pas nager. On ne peut pas accueillir le monde et considérer qu'on ne puisse pas, après ces JO, leur proposer aussi ces équipements qui verront à la télé, que le monde verra, et que derrière, on ne soit pas en capacité de leur permettre d'y accéder. Donc c'est une question aussi de justice sociale et d'égalité aussi, de traitement et de valorisation de nos territoires. Donc c'est la raison pour laquelle ce projet de centre aquatique, je le porte vraiment cheville au corps, chemise au vent, je vais aller chercher les moyens pour pouvoir permettre le fonctionnement de cet équipement structurant pour notre ville. On est dans un territoire, vous connaissez les chiffres, c'est un enfant 2 rentrent en 6e sans savoir nager. Les taux de noyade, vous les connaissez. Le fait aussi de pouvoir travailler sur le savoir nager, c'est fondamental, c'est un droit. La nécessité aussi d'avoir un équipement structurant qui aujourd'hui existait. Hein. Donc, bon, mes prédécesseurs l'ont fermé en 2015 parce qu'il y avait un vrai problème de gestion et d'entretien et de se projeter aussi. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70. On a l'université, 14 000 étudiants, 14 000 habitants. Cette piscine aura un rayonnement à l'échelle intercommunale, plus de 400 000 habitants sur le territoire de pleine commune. Rayonnement aussi à travers les autres villes qui sont limitrophes. Donc il y a ce besoin en fait, et Ville-Tanneuse, mais je l'avais dit aussi, c'était pas une promesse, c'est un engagement. Ville-Tanneuse ne peut plus être une ville dortoir. Donc si on n'a pas ces équipements structurants qualitatifs qui permet de rehausser aussi le niveau, de dire, bah oui, waouh, c'est une ville où on peut se détendre, on peut aller nager, on peut avoir un cadre sympathique, aquatique, et puis c'est un équipement qui sera aussi orienté pour les familles qui ont besoin, qui ne peuvent pas partir en vacances. Souvent l'été, vous voyez la difficulté qu'on a à faire partir des familles, donc les gens pourront voir aussi un cadre de vie pour pouvoir vivre paisiblement dans cette ville. Oui, ça aura un coût en investissement, oui, ça aura un coût en fonctionnement, mais on anticipe toutes les difficultés qu'on aura pour pouvoir faire fonctionner cet équipement qui est prévu en fin de mandat.
Autre chantier important que vous avez mentionné tout à l'heure, l'ouverture d'une maison de santé, ça aussi c'était une promesse électorale. Où en est ce projet? Il faut évidemment un lieu et puis il faut des médecins.
Le lieu est déterminé. Alors le lieu, c'est dans le périmètre de notre NPNRU, c'est le nouveau programme de rénovation urbaine. Ville-Tanneuse est très ambitieuse sur son programme. Donc oui, une maison de santé accompagnée financement de l'ANRU, financement de la région, l'ARS. Ça fonctionne, ça avance bien. On a défini un programme. Nous sommes en train de finaliser des sujets de maîtrise foncière. C'est en normal, c'est des problématiques. Nous sommes en train de désigner aussi l'architecte qui sera amené à travailler sur ce projet. Le projet avance, pareil, hein, projet qui verra le jour en fin de mandat, parce que ça prend du temps. Une fois qu'on a décidé, la mise en œuvre prend du temps, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes au-delà du financement. Hein. Je parle vraiment de montage même du projet, de sa conception jusqu'à son inauguration et son utilisation. Il y a un certain nombre d'étapes, mais on n'a pas lâché, parce qu'on est accompagné par les services de l'État aussi. On a sollicité aussi de la dotation d'investissement local, la DSIL. Et c'est important parce que une maison de santé à Ville-Tanneuse, c'est plus qu'indispensable. La plupart de nos médecins sont partis. Je suis aussi accompagné par des médecins qui veulent aussi porter ce projet avec la commune. L'université, bien sûr, pareil, cette maison de santé sera aussi ouverte aux étudiants à Ville-Tanneuse et aussi le reste de la population du territoire. Donc c'est plus que nécessaire.
Alors, Dieunor Excellent, vous aviez annoncé aussi votre volonté de créer des maisons pour les assistantes maternelles. Qu'en est-il aujourd'hui?
Les maisons, du coup, il y a une qui va bientôt être inaugurée en début d'année. Capacité d'accueil 16 enfants. Et vous voyez, c'est fondamental pour nous la question du mode de garde. Je ne sais pas si on parlera aussi de la problématique du chômage, mais aujourd'hui, c'est un frein à l'embauche, notamment pour les femmes, de ne pas bénéficier d'un mode de garde. D'où la nécessité de diversifier l'offre de mode de garde. Donc les maisons d'assistance maternelle, ce sont des assistantes maternelles qui mutualisent un peu leurs compétences, leurs moyens dans un lieu pour qu'ils puissent proposer des modes de garde. Et la municipalité a accompagné financièrement, on a donné une participation financière alors qu'on est en période de restriction budgétaire, mais c'est une priorité pour nous. Donc là-dessus, pareil, il y a une première MAM là, qui va être inaugurée en début d'année 2023. Puis on a d'autres projets dans d'autres secteurs de la ville pour porter aussi ces projets de MAM. Et puis avec le conseil départemental aussi, nous travaillons à améliorer la qualité d'accueil au niveau de la crèche départementale. Nous avons aussi une maison de la petite enfance qui accueille aussi des enfants. On a été impacté par un incendie cet été, mais voilà, on a tout de suite relancé la démarche pour faire les travaux, pour pouvoir continuer à accueillir les familles. Et puis d'autres projets de maisons d'assistance maternelle dans d'autres secteurs de la ville pour pouvoir lever ce frein pour les personnes qui sont confrontées à des problématiques de garde et qui peuvent pas aller travailler, et puis pour permettre que ben, les enfants puissent avoir un cadre idéal dans leur mode de garde.
Dieunor Excellent, quelle action avez-vous mise en place pour lutter contre le chômage dans votre ville ?
Alors, lutter contre le chômage, vous savez que c'est une problématique qui est portée à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de chômage. Nous, on a une problématique de chômage de nos jeunes. Aujourd'hui, on a une maison de l'emploi et de la formation qui est portée par le PT, qui est en train d'être revue, la question de l'insertion professionnelle, notamment avec les agences locales d'insertion, parce que c'est une compétence aussi qui sera portée par le département. Donc, moi, ma stratégie, c'est d'être proche de tous les acteurs qui travaillent sur la question de l'emploi. On parle beaucoup de sorties positives, mais les sorties positives, ce sont les entreprises, concrètement. Donc, c'est accompagner des entreprises à s'installer sur le territoire, accompagner des structures qui souhaitent porter des projets de formation pour mieux former des personnes qui sont éloignées, voire très éloignées, voire même trop éloignées de l'emploi. Et puis, c'est surtout mobiliser l'ensemble des dispositifs que peuvent porter, bon, c'est souvent des acteurs privés, mais c'est très bien, mais les acteurs publics aussi peuvent impulser des rencontres et croiser l'offre et la demande, porter cette démarche de aussi permettre à ces structures aussi d'avoir des lieux pour pouvoir porter leur formation, faire en sorte de faire venir des structures qui peuvent accompagner les personnes vers l'emploi. Mais c'est vrai que c'est pas une compétence municipale, mais en tout cas, le maire, les élus, la municipalité a ce rôle de faire en sorte que les acteurs se rencontrent et de faciliter aussi la mise à disposition d'espaces ou de besoins pour lever certains freins pour lancer cette dynamique de retour à l'emploi.
Il y a quelques jours, le prix Nobel de littérature a été attribué à Annie Ernaux et il se trouve que c'est un prix qui a fait plaisir en particulier aux habitants de votre ville puisque c'est à Viltaneuse que se trouve la médiathèque Annie Ernaux. C'est le seul établissement qui porte le nom de l'écrivaine.
Oui, tout à fait. C'est une fierté pour Viltaneuse, pas tant pour moi parce que j'ai fait ce choix que cet équipement puisse porter le nom de Madame Ernaux alors qu'elle n'était pas prix Nobel, alors qu'elle avait accepté de me recevoir. C'était pas gagné d'avance, mais c'est toujours cette démarche d'aller de l'avant, de s'inscrire dans le présent et dans le futur et de saisir les opportunités. Donc oui, c'est une fierté et c'est une fierté aussi et je souhaite remercier de tout cœur et avoir toute cette reconnaissance pour Madame Annie Ernaux qui l'a acceptée parce que ça avait du sens pour elle. C'est la première fois qu'elle me disait, elle souhaitait pas de son vivant qu'un équipement ou une rue porte son nom. Elle a accepté pour Viltaneuse alors que c'est pas sa ville natale, c'est pas la ville où elle vit actuellement, mais ça avait du sens pour elle par rapport à ce qu'elle défend à travers son engagement politique et à travers toute son œuvre aussi littéraire. On sait tous que c'est une transfuge de classe et elle considère que l'ascension sociale, l'évolution culturelle, éducative des personnes est importante et une médiathèque où on trouve des livres, le savoir, l'accès au numérique avait du sens pour elle, d'autant plus que c'est dans un quartier populaire et un quartier qui est en QPV.
Merci, Dieunor Excellent. Je rappelle que vous êtes maire de Viltaneuse. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.